Danzig, on vous retrouve avec joie la semaine prochaine.
Écoutez, écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Un compte secret, c'est simplement un procédé de transformation qui va nous permettre de prendre une phrase intelligible et la rendre incompréhensible à qui ne connaît pas la clé qui permet de faire le chemin inverse.
Jean-Sébastien Bach,
ce petit canon tout à fait énigmatique.
Tout de même, jusqu'où on peut aller trop loin.
Et en effet, qu'est-ce d'autre qu'une énigme ?
La série musicale Zoé Sfez.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble en direct et ça, c'est toujours aussi bon pour une émission libre de toutes les provenances, de toutes les matières, de tous les codes et de tous les jeux aujourd'hui. Une heure de radio sur la musique en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Émission déchiffrage aujourd'hui, en ce 8 mai resplendissant. Il sera question du sens caché des sons, de ce qu'on l'on peut dire, sans le dire ouvertement, par les notes, par la structure. De la même manière qu'il existe des messages subliminaux, allés à l'image, dans les films ou les publicités, il existe parfois une réalité cachée dans les sons, une réalité qui a été placée là à dessein par des compositeurs, qu'ils veulent y dire des messages secrets ou des indications liées à des réalités très concrètes, parfois politiques, ou qu'ils y proclament leur amour, leur vision esthétique, qu'ils essayent aussi peut-être de s'inscrire dans un système inventé du sens, inventer leur propre sens. Il ne sera pas question dans cette émission du sens caché des mots dans les musiques censurées, du double sens dans les paroles des chansons qu'on affectionne, mais bien de ce qui a été masqué ou bien révélé fortuitement dans la structure musicale même d'une œuvre. Chiffrer la musique, le sens caché des notes, c'est jusqu'à 18h sur France Culture.
Are you?
You are?
Yes.
Where is Big Moustache?
I don't know. And if you don't know, I don't know, no? Ah merde alors, comment on dit
comment ça? Comment ça merde alors? But alors you are French?
Hein?
Gentlemen, hein? Suivez-moi.
Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois.
Ah, on a envie de les suivre, les voix géniales de Louis de Funès et de Bourvil. Il était trop tentant d'ouvrir cette émission avec nos deux compères de la grande vadrouille qui fredonnent ce petit chef-d'œuvre de la Tin Pan Alley qu'est Tea for Two, dans cette merveilleuse comédie, la grande vadrouille qui se déroule dans la France occupée. C'est cette chanson qui fonctionne dans cette scène des bains turcs, qu'on entend ici le clapotis de l'eau, comme le signal de reconnaissance entre résistants. Alors le clin d'œil, on l'a dit, est tentant, mais en fait il est assez anecdotique pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? D'une part parce que Type for Two n'a jamais en fait été utilisé réellement comme code pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une pure création au scénario de Gérard Houry. Mais d'autre part aussi parce que c'est le texte de la chanson hein, ici qui fait sens. Tea for Two, c'est une référence au fameux thé, la boisson de prédilection des Anglais qu'on attend comme le Messie et qui vont littéralement tomber du ciel à la fin du film pour sauver les Français de l'occupation allemande. Ce sont pas les notes qui comptent. Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, dont nous célébrons, nous commémorons aujourd'hui la fin, il y a bien une œuvre musicale qui a servi de catalyseur, de signe de rassemblement. Et si cette œuvre a été choisie, c'est pour ses propriétés profondément musicales, qui rendaient ce signal en fait bien moins évident à saisir et à identifier, notamment pour les Allemands. Tout commence en fait en 41, quand le ministre belge Victor Levlet, qui est réfugié à Londres, veut lancer une campagne de ralliement pour la résistance. Il va choisir la lettre V qui fonctionne en fait dans toutes les langues, V de la victoire ou de victory en français ou en anglais, et qui correspond aussi au V de Vrijheid, qui veut dire liberté en néerlandais. Ça voulait dire que tous les partis, les peuples occupés pouvaient s'y retrouver. À une époque où évidemment la presse est absolument censurée et où l'écrit hein, pour les résistants est terriblement dangereux, ce signal de ralliement doit trouver une traduction sonore et c'est le 6 juin 41 que le V sonore fait son apparition par analogie avec la lettre V en morse, dans l'alphabet morse. Dans l'alphabet morse, le V c'est trois brèves, une longue. Ti-ti-ti-ti. Et c'est exactement ce que fait rythmiquement, vous l'avez probablement entendu, le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven. Alors partout, assez vite, on va passer ce thème, cette grande œuvre, ce premier mouvement à la radio. Et les partisans des forces alliées peuvent en fait la jouer quasiment sans danger, y compris dans les villes occupées, où l'armée du Reich n'y voit qu'un hommage à un compositeur qui, après tout, est absolument allemand. Souvent baptisé « Le destin frappe à la porte », cette symphonie numéro 5 devient, grâce à ce code musical trouvé en fait a posteriori, il ne vient pas de Beethoven lui-même, le symbole de la victoire des forces alliées sur les forces de l'Axe.
Thank you.
La cinquième symphonie de Beethoven, devenue l'un des hymnes les plus politiques, grâce à sa clarté rythmique qui se prête si bien au morse. Le morse, ce mode de communication par le rythme, il a très souvent, vous allez le voir, été intégré volontairement dans la musique pour communiquer. Mais, avant d'en parler, il est impossible de ne pas inaugurer cet épisode de la série musicale consacrée au chiffrage des notes, sans évoquer finalement le maître de la musique chiffrée, celui qui, en plus d'être le père de la musique occidentale, est le héros de la plupart de nos séries musicales, quel qu'en soit le sujet, on en revient toujours à lui, est aussi celui des musiciens modernes qui a le plus envisagé la musique comme un système non seulement esthétique, mais aussi destiné à créer du sens. Les messages qu'il a cachés dans ses notes sont si nombreux que nous cherchons encore à en percer le sens caché. J'ai bien sûr nommé Jean-Sébastien Bach, homme de la Renaissance allemande, croyant invétéré, qui voyait évidemment la musique comme un moyen de dialoguer avec les hommes, avec la science et aussi bien sûr avec Dieu. Musique percluse de mystères, de rébus, de labyrinthes, avec laquelle Bach cherche toujours à faire entendre l'harmonie. C'est évidemment Bach qui a mené le contrepoint à son acmé, on peut le dire, mais aussi à écrire littéralement l'harmonie. Bach, comme bien des compositeurs allemands après lui, a tout d'abord, de manière assez simple, mais il l'a porté à de très haut niveau, le fait que le système de notation des notes en allemand correspond à des latins et non pas à nos notes à nous. C'est A pour le La, B pour le Si, C pour le Do, H pour le Si à nouveau. La combinaison La, Si bémol, Do, Si est en fait la transcription littérale de Bach, B-A-C-H, et c'est sa signature musicale. Alors cette signature musicale, d'abord, elle est présente partout dans ses œuvres. C'est d'ailleurs le tout dernier thème de sa toute dernière fugue, une espèce de signature comme un adieu. Mais Bach était aussi, et c'est là que ça se complexifie, adepte d'une méthode de transcription des lettres de l'alphabet en chiffres. C'est une méthode qui est héritée de la Kabbale et qui est connue sous le nom de gématrie. Selon cette méthode, A égale 1, B égale 2, C égale 3... Ne vous en faites pas, il n'est pas nécessaire de maîtriser cette méthode absolument, il suffit simplement de savoir que Bach, lui, la maîtrisait très bien. Et que grâce à ce système, il a trouvé un équivalent chiffré à son nom, BAC. BAC correspond au chiffre 14. Le chiffre 14, c'est le chiffre majeur, le chiffre d'or de la musique de Bach. Elle est présente absolument partout, dans sa musique, dans sa vie. Absolument pas de hasard dans le fait qu'il y ait 14 canons dans les fameuses variations Goldberg. Et d'ailleurs, quand son ancien élève et ami Mitzler crée une société de musique savante destinée à réunir les meilleurs musiciens de son temps qui doivent l'envisager, la musique comme une science, et y présenter chaque année de très belles œuvres, Bach va en fait prendre tout son temps pour y entrer, alors que clairement il est un client de choix. Et quand il s'y inscrit enfin, on est en 1747, il est, et ce n'est certainement pas un hasard, le 14e membre reçu dans cette société musicale. L'œuvre qu'il propose s'appelle l'offrande musicale, en toute simplicité. Elle combine un nombre de canons quasiment jamais atteint. Tous, évidemment, sont chiffrés. Et Bach note sur la partition cette sentence qui paraphrase Jésus dans son serment sur la montagne, rien de moins. Carendo eventietis, cherchez et vous trouverez. Le canon de l'offrande musicale de Bach qui lui permet d'entrer à la Société Mitzler en 1747. Alors pour l'occasion, elle est belle quand même cette occasion pour Jean-Sébastien Bach d'entrer dans cette société savante dédiée à la musique comme science. Pour l'occasion donc, Jean-Sébastien Bach décide de se faire tirer le portrait par un peintre très en vogue à l'époque, Haussmann. Portrait dans toutes les règles de l'art, perruque, grand habit. Mais évidemment, là aussi, Jean-Sébastien Bach veut jouer avec nous, veut communiquer, et communiquer comme toujours de manière absolument chiffrée. Dans ce portrait, Bach tient à la main un petit feuillet. Et ce petit feuillet de musique, encore aujourd'hui, continue de provoquer l'incrédulité des musicologues. On en fait des livres, au moins trois. Pourquoi ? Parce que cette partition, évidemment, est un rébus, une énigme. Il y a des références à ses pères spirituels musicaux, notamment Handel. Et puis, il y a évidemment l'omniprésence des chiffres. D'abord, si on essaye de se pencher sur cette partition comme sur un rébus, on va trouver 41 notes au milieu de cette partition. Et 41, c'est la somme de Jean-Sébastien Bach confondu quand on se réfère toujours à ce système de notation que Bach affectionnait beaucoup. Soit 14 à l'envers aussi, hein, intéressant. On trouve aussi 1 plus 7 notes au début et 4 plus 7 notes à la fin. Ce qui nous donne tout simplement la date d'entrée de Bach dans la Société Mitzler, 1747. Mais surtout, surtout, à la dernière ligne de cette partition, on trouve une très très courte partition d'un canon. Sur ce canon est noté « canon triplex à 6 voix ». Or en fait, quand vous regardez sur le tableau, il n'y a que 3 voix. Mais c'est aussi évidemment que les portées se lisent à l'envers, puisque Bach nous regarde d'en face, et dans le sens où Bach, lui, les lit, on peut trouver une autre ligne mélodique. Ça fait si donc 6 voix qu'on peut lire sur ce canon, mais ça ne nous dit absolument pas comment interpréter, comment véritablement interpréter, jouer ce canon à 6 voix. Alors on peut par exemple le faire comme ça. Première version avec clavecin et cordes du Collégium du Japon, mais on peut aussi jouer le fameux canon triplex à 6 voix de Bach de cette manière-là. Vous l'entendez ici, le tempo a changé, mais surtout les voix ne s'agencent pas exactement de la même manière. Troisième interprétation possible, alors on sait qu'il y en a plus d'une cinquantaine, par exemple. Mais que veut précisément nous dire Bach ? Pourquoi tant de mystère, lui qui n'a pas de message politique à faire passer ? Parle-t-il tout simplement directement à Dieu ? Ou parle-t-il de Dieu, de son mystère aux hommes ? Pour le musicologue Jean-Pierre Derien, au-delà de la qualité de la musique, c'est en fait l'énigme elle-même qui est sans doute le message.
Quand on parle d'énigme, on parle du sphinx et on parle aussi d'Édipe. On parle de quantité de choses qui, en tout cas, ne sont pas seulement de l'ordre de la musique. Alors que je crois ce qu'on vient d'entendre n'est pas, il faut le dire, extrêmement passionnant à écouter. Parce que c'est simplement une musique qui ne peut pas, par sa nature, être développée. Je crois que c'est beaucoup plus à prendre comme un réservoir de structure où les éléments structurels soient si simples que toutes les combinaisons de structures soient possibles et qu'on puisse à chaque fois en tirer quelque chose qui est infinitésimalement différent d'une autre version. C'est-à-dire que si on écoutait les 400 et quelques versions qu'on peut donner de ce matériau, eh bien, on s'apercevrait qu'on n'a pas grand-chose. Il faut considérer ça comme des propositions pour le compositeur. Et dans ce sens, on n'est pas si loin dans ce travail d'élaborer quelque chose de minimum qui peut donner à peu près toute la musique si on veut bien. On n'est pas très loin des immenses travaux de Beethoven pour arriver à trouver, pour faire une symphonie de 40 minutes, 2 notes.
« d'une énigme à une autre, 3 siècles après Bach. Il est un compositeur britannique cette fois. Édouard Elgar, qui lui aussi a revendiqué frontalement un grand rapport à chiffrer les notes, une jouissance véritablement à le faire. Vous écoutiez à l'instant la variation Enigma numéro 10, dédiée à Dorabella. C'est l'un des grands œuvres de Édouard Elgar. Ces variations Enigma, il y en a 13 en tout. Variation Enigma qui reste encore aujourd'hui un mystère, une énigme qu'on ne cesse de chercher à percer. Pourquoi ? Parce que quand il compose cette œuvre, succession donc de 13 variations dédiées à chacun de ses amis, Édouard Elgar annote chacune de ces variations. On comprend assez vite à qui il est dédié, à l'un de ses meilleurs amis qui lui a permis de refaire de la musique, à son amie Dorabella qui est à la fois une protectrice, une admiratrice. Ici, les bois que vous entendiez de manière guillerette sont censés imiter son rire. Oui, mais Édouard Elgar, quand il nomme cette œuvre Variation Enigma, laisse sous-entendre que les variations varient autour d'un même thème. Or, c'est cela qui est très intéressant, c'est que ce thème mystérieux, ce thème commun à toutes ces variations, objectivement, on ne l'entend pas quand on écoute cette succession. Encore aujourd'hui, de nombreux musicologues cherchent à savoir quel serait le thème ou la succession de notes qui serait en commun à toutes ces variations. Parmi les diverses interprétations, on trouve God Save the Queen, l'hymne anglais, Rule Britannia, ce serait en réalité des variations aussi qui auraient un but politique dans cette volonté de chiffrer, ou alors tout simplement la symphonie numéro 38. Dite de Prague, de Mozart, que Elgar admirait beaucoup. Elgar, qui ne s'en est pas tenu à chiffrer uniquement la musique, Dorabella, la destinataire de cette variation, est aussi la destinataire d'une lettre que Édouard Elgar lui a écrite en 1887, qui n'est autre qu'un message crypté de 87 caractères. Encore aujourd'hui, cette lettre n'a jamais été percée à jour. On ne sait toujours pas ce qui se cache derrière ce fameux message. Une des variations, la dernière de ces variations Enigma, la numéro 13, n'a pas de dédicataire identifié. On est encore aujourd'hui en train de chercher à qui Édouard Elgar la destinait. Selon le compositeur, dans des lettres retrouvées bien plus tard, ce serait à Lady Mary Lygon, par simple suggestion, puisque ce dédicateur donc est toujours caché. Autre possibilité, elle serait, cette variation qu'il a sous-titrée Romance, dédiée à une autre fan, Hélène Weaver, avec qui il s'était fiancé et avec qui il avait rompu ses fiançailles.
Stop.
star en rouge. La puissance facétieuse de Star al Four du groupe Sigur Rós, avec ce titre, le groupe islandais s'est imposé comme l'un des maîtres aussi du message caché par la structure. Car avec ce deuxième album Paris en 98, Sigur Rós s'inscrit dans une longue tradition musicale, celle du palindrome. Le palindrome désigne toujours, vous savez, un mot, une phrase, ou ici en l'occurrence un thème musical, une succession de notes qu'on peut lire dans les deux sens, qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors c'est un procédé qui est très aimé des compositeurs classiques, de Haydn à Berg à Béla Bartok. Ici, Sigur Rós le fait à l'échelle de son deuxième album. Ce deuxième album qui paraît en 98 et qui s'inscrit véritablement dans une tradition presque baroque, vous l'avez bien entendu, par la présence notamment des cordes la forme même du morceau qui fait des références quasiment directes à Bach. Sachez qu'ici vous entendez de la guitare jouée à l'archet. Ce deuxième album, Agathis Byrjun, j'ai peur de mal prononcer, fait lieu en fait presque de déclaration dans le sens esthétique du terme, puisque on l'a dit, musicalement l'influence est revendiquée, mais aussi dans la forme. L'album lui-même fonctionne comme un palindrome, puisque le tout dernier titre de l'album, Avalon, n'est autre qu'une version ralentie des cordes de ce titre que vous entendez sur ce titre, Star al Fur, titre où la partie des cordes elle-même est en fait écrite de manière palindromique, c'est-à-dire qu'on peut la jouer dans un sens et dans un autre. L'album se referme de manière voilée presque sur lui-même. Écoutez. Absolument pas évident de reconnaître la partie des cordes du tube de cet album dans ce dernier son Avalon. Avalon qui est une référence, vous savez, à cette île mythique, l'île qui à la fois est un au-delà rêvé, puissant, où se retire le roi Arthur dans la légende arthurienne pour aller y mourir. Donc pas évident de comprendre qu'il y a ici un message caché. Que fait Sigur Rós en nous envoyant ce message, message qu'on peut repérer hein, si par exemple on écoute ce morceau en le regardant avec un spectre sonore? Il devient beaucoup plus facile de le rapprocher de la partie des cordes de Star al Four. Que fait Sigur Rós? Eh bien, il utilise cette structure musicale codée un peu à la manière dont Bach le faisait, pour en tout cas nous donner son message esthétique. Il nous dit ici, ce groupe, avec ce deuxième album, ce qu'il entend être, c'est-à-dire véritablement le pont entre le rock progressif et la musique classique. Et d'ailleurs, c'était présent dès l'introduction de cet album. Dans cette introduction, on entend l'enregistrement des paroles de Star al Fur cette fois-ci, mais joué en backtrack, c'est-à-dire joué avec l'enregistrement, mais à l'envers. Cette pratique-là, qu'on a aussi baptisée de backmasking, c'est-à-dire jouer à l'envers pour masquer, elle a été beaucoup, beaucoup utilisée dans le rock progressif, et c'est sans doute aussi pour cela que Sigur Rós se place sous ce signe-là, notamment par un groupe qu'on aime beaucoup dans son deuxième album, son deuxième EP, sur plusieurs titres, dont l'un, Unique Provocateur, qui recèle quelques petits trésors cachés.
Thank you.
Mars Volta, Yannick Provocateur, issu de leur album Tremulon, c'est leur premier EP, on est en 2002, et Alex Newport décide de faire véritablement lui aussi une proclamation dans cet album où on ne retrouve quasiment aucune chanson qui s'accorde à la structure classique de couplet, refrain, couplet. Album qui alterne aussi véritablement des passages rock extrêmement violents avec des nappes beaucoup plus douces. Que se passe-t-il véritablement à ce moment-là? On entend bien qu'on est sur un son déformé. De quoi s'agit-il exactement? Vous allez tout de suite l'entendre, vous pouviez l'entendre si, comme à l'époque, vous disposiez d'un lecteur cassette et que vous pouviez jouer la cassette à l'envers, luxe qui s'est perdu mais qui reste bien utile. Down came the rain and watched the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. Itsy Bitsy Spider, vous la reconnaissez, cette petite comptine traduite en français par l'araignée gypsy qui monte à la gouttière. C'est une petite comptine enfantine, hein, traduite de l'anglais, qui en général désigne ce petit grain de folie. Itsy Bitsy Spider, la petite araignée qui monte et qui va venir se loger dans votre cerveau pour vous rendre fou. En réalité, en masquant à l'envers cette petite comptine chantée ici dans une version quasiment des années 40, Mars Volta se place sous le signe de l'idéologie qui prévaudra pour toute leur musique, celle du jeu et de la folie. Écoutez l'un des titres dans les albums les plus géniaux du groupe Pink Floyd, The Wall, cette chanson qui s'appelle Empty Spaces. Les espaces vides comportent un passage musical que vous avez entendu en son cœur, où là aussi on reconnaît du son à a priori déformé et que la plupart des fans déjà à l'époque avaient eu la bonne idée eux aussi de rembobiner. Écoutez attentivement, c'est un message qu'on avait vraiment envie que vous trouviez.
Congratulations, you have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont.
Félicitations, vous venez de découvrir le message secret. S'il vous plaît, envoyez votre réponse à Old Pink, à la Funny Farm de Chal Font. Alors comme ça, ça a l'air assez anecdotique, hein, ce petit message glissé. On fait partie des références qu'un groupe pouvait envoyer à ses fans. Mais si on se penche un tout petit peu sur le moment musical que traverse Pink Floyd à cette époque, on peut considérer qu'en fait, All Pink, c'est une allusion à Syd Barrett, c'est l'un des anciens membres du groupe, qui venait de le quitter, qui avait de graves problèmes psychologiques et qui venait de passer beaucoup de temps dans un hôpital psychiatrique, d'où peut-être le terme Funny Farm. On n'est pas sur quelque chose de si drôle. Le titre s'appelant Empty Spaces, les espaces vides, relève peut-être tout simplement de la métaphore de cette grande solitude dans laquelle nous plonge la folie. La folie de notre ami Robert Schumann, d'une folie à une autre. Car oui, nous avons évoqué des messages musicaux qui relèvent de la proclamation esthétique, des messages musicaux qui parfois tendent à alerter sur la tristesse, la solitude que ressent quelqu'un seul dans la folie. Mais probablement l'un des messages qui a le plus été livré, de manière voilée ou pas, dans des œuvres, c'est bien le message amoureux. C'est précisément ce que fait le jeune Robert Schumann dans cette fantaisie. Cette fantaisie qu'il compose en 1841. À cette époque-là, il est ce jeune compositeur qui entend encore être un pianiste virtuose. Il a rencontré, admiré et il aime déjà Clara Wieck, jeune prodige musicale du piano que toutes les villes s'arrachent. Oui, mais le père de Clara Wieck interdit cette romance. Il juge Schumann déjà un peu trop exalté. Peut-être n'a-t-il pas tort, car on sait aujourd'hui que c'est la maladie mentale qui l'emportera. Le père a donc interdit aux deux jeunes amants de se rencontrer. Qu'à cela ne tienne, Robert Schumann va composer en seulement 2 semaines cette fantaisie, qui devient ensuite le premier mouvement de son concerto pour piano en 1845, composé entièrement pour et presque par Clara. On y entend la fougue et à la fois le désespoir du jeune homme aimé. Et il y insère le motif CHA. Avec toujours ce système de notation allemand, référence à son surnom, Clara pour Chiara, puisqu'il la surnommait de ce prénom plus italianisant. Et ce motif musical, il va dominer entièrement le premier mouvement. Il se voit à plusieurs reprises repris, travaillé sous différentes formes. Il sait très bien, Schumann, que celle à qui il est destiné le comprendra fort bien, puisqu'elle est elle-même pianiste, et que le message sera très bien reçu. Ils sont fort nombreux, évidemment, les compositeurs qui ont utilisé ce système de notation par les chiffres pour dire leur amour. C'est le cas, par exemple, d'Alban Berg, qui, lors d'un voyage à Prague en 1925, à Prague, pardon, va rencontrer une jeune femme, Anna Fuchs, dont il tombe éperdument amoureux et à qui il consacrera un petit monument pour un grand amour, c'est-à-dire sa suite lyrique qui est entièrement placée sous le signe eh bien, des initiales, hein, puisqu'on retrouve les motifs HF et AB partout dans l'œuvre. Pas forcément une bonne idée, puisque sa femme, Hélène Nahovski, comprenait très bien la musique et qu'elle n'a pas manqué de comprendre que cette suite lyrique ne lui était pas adressée à elle. Mais évidemment, Clara Schumann reste la destinataire la plus aimée de la musique chiffrée. Schumann fait référence à elle sans cesse, mais aussi Brahms, Johannes Brahms, qui a été amoureux platoniquement de cette femme qui fut d'une certaine manière vraiment sa sainte patronne. Johannes Brahms qui a beaucoup composé avec, sous l'égide de Clara, mais on le sait peu. Il a aussi dédié, de manière là aussi chiffrée, une très belle œuvre à l'un de ses premiers amours, une jeune femme qui s'appelait Agathe von Siebold. Et en 1858, le compositeur lui est fiancé, il décide subitement de rompre la relation, Johannes Brahms qui n'arrivera jamais à s'attacher à aucune femme et il préfère clairement se consacrer à la musique. Néanmoins, il lui écrit un sextuor numéro 2 en sol majeur qui fonctionne comme une ballade d'adieu. On y retrouve le motif AGAHE dans les mesures 162-168 qui est le moment le plus émotionnellement poignant de son œuvre. Écoutez, vous l'entendrez. Thank you. compositeur allemand qui joue avec le système de notation pour, dans le cas de Bach, proclamer leur rapport à Dieu, dans le cas de Robert Schumann ou de Johannes Brahms, déclarer leur amour ou faire leurs adieux en amour. Il est un autre compositeur russe cette fois, qui lui aussi a traduit son nom musicalement. C'est Dmitri Shostakovich, qui toute sa vie a utilisé le motif musical de son prénom, c'est-à-dire de son nom de famille, D.S.C.H. Motif musical qui est présent à peu près partout, mais qui culmine dans l'une des œuvres les plus jouées, les plus appréciées, les plus poignantes de l'œuvre de Dmitri Shostakovich. Et le message là est politique, voire identitaire. Il est, disons-le, déchirant. Ce message, il est au cœur, au début, d'entrée de jeu, dans le quatuor à cordes numéro 8 de Shostakovich. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre. Quand il l'écrit, on est en 1960. À l'époque, le compositeur souffre déjà de poliomyélite. Il souffre physiquement beaucoup, mais surtout, surtout, il vient très tardivement et sous une pression terrible d'adhérer au Parti communiste pour survivre, pour pouvoir composer encore et toujours. Mais son ami Lev Lebedensky dira de lui: le quatuor a été écrit juste après qu'il ait rejoint le PC, ce qui pour lui équivalait à la mort même. Ce quatuor débute dès le début par la proclamation de ses initiales, D-C-D-S-C-H, comme pour dire « Oui, je suis mort, vous m'avez tué, mais je suis toujours là ». Le message presque politique de Dmitri Shostakovich dans son quatuor à cordes numéro 8. Car oui, il y a évidemment aussi des messages politiques qui ont été intentionnellement mis dans des musiques et parfois même des musiques entièrement écrites pour pouvoir passer des messages politiques. On en revient au morse avec lequel on a ouvert, le morse qui était utilisé et qu'on a essayé de retrouver dans la symphonie numéro 5 de Beethoven pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Inversement, en Colombie, en 2010, les forces armées révolutionnaires de la Colombie, les FARC, prennent en otage 16 soldats colombiens. Et ils sont menacés de mort à la moindre action. Et puis surtout, ils sont emmenés dans la jungle, perdent progressivement tout espoir à la fois d'être retrouvés, mais aussi d'être sauvés. Il y a un colonel de l'armée colombienne qui veut absolument trouver un moyen de joindre les otages et de leur transmettre un message secret. En l'occurrence, l'aide est en chemin, que vous soyez prêt à fuir ou à se battre, mais comment le transmettre, évidemment, comme toujours, sans alerter les FARC, bien sûr, par la radio. L'idée lui vient donc de créer un message codé qui serait transmis radiophoniquement en morse, entendu par tous, mais capté seulement par ces soldats qui étaient évidemment formés à reconnaître le morse. C'est ainsi qu'en quelques jours, il fait enregistrer, avec l'aide d'un directeur de publicité, Juan Carlos Ortiz, une chanson musicalement pas très intéressante, comme vous allez l'entendre, mais qui contient ce message codé en morse. Vous allez le voir, on est sur de la pop colombienne, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus médiocre. Au milieu, petite anomalie rythmique qui est en réalité ce fameux message. Better Days, la magnifique pop codée colombienne qui effectivement a beaucoup servi puisque l'opération militaire a réussi à l'époque. Cette tendance à cacher des messages, elle a rendu certains assez fous dans les années 80, alors que, on l'a entendu, hein, certains groupes de rock, souvent progressifs, alternatifs, voire carrément punk, s'amusent beaucoup avec le backmasking. Plusieurs groupuscules religieux vont essayer de réécouter à l'envers absolument tout ce que la pop produit pour voir s'il n'y a pas de messages cachés. C'est ainsi que Queen, Led Zeppelin ou Jay-Z sont accusés de transmettre des messages sataniques venus du diable, alors qu'en réalité il n'en est rien. Parmi les groupes les plus pointés du doigt, il y a Queen dans Another One Bites the Dust qui aurait caché un message pro-marijuana. Queen, très vite, est obligée de réagir et indique que la chanson ne se lit que dans un seul sens. Voilà, petite leçon de morale. Tout n'est pas crypté, mais Queen, ça fait toujours du bien. Let's go! She walks fairly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. Voilà, citation queenesque, parce qu'il ne faut pas se priver, c'est la fin de cette série musicale. Elle a été réalisée par Nicolas Berger aujourd'hui. Et à la prise de son, c'était le grand Jacques Hubert. À la préparation, Louis Lou que vous viez. Merci à Pierre Plantin et Marion Guilaine de la merveilleuse discothèque de Radio France. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter, podcaster la série musicale sur toutes les bonnes applications. Mais on préfère toujours celle de Radio France.